France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Machine arrière toute sur les vaccins. L'État américain de Floride annonce qu'il veut supprimer l'obligation vaccinale. Ce serait une première mondiale. Explication aux États-Unis. Dans un instant, nous mesurerons également les conséquences d'une telle décision avec le médecin Antoine Flao. À suivre encore le déraillement du funiculaire de Lisbonne. Hier soir, au moins 17 morts. Notre reporter est sur place. Quelle garantie de sécurité pour l'Ukraine ? Sommet à Paris aujourd'hui. Avec Volodymyr Zelensky, mais aussi l'émissaire de Donald Trump. Un musée volé en pleine nuit, plusieurs millions d'euros de préjudice. Cela se passe à Limoges, nous y serons. Et puis ces maires du Sud-Ouest qui doivent se prononcer dans quelques jours sur la future ligne LGV. Les maires sont perdus.
C'est pas bien ce qui se passe au coin-là. Parce qu'on nous fait prendre des décisions, acter des choses où on n'a rien compris même nous-mêmes. Alors voilà ce qui me gêne.
Le dossier est lourd de 25 000 pages. Nous parlerons aussi des boxeuses françaises. Bonjour Noureddine Zidane.
Bonjour Jérôme.
Privée de championnat du monde.
À cause de tests de féminité, une première pour des mondiaux de boxe pas arrivée à temps. Une situation inadmissible pour la ministre des Sports.
Vos précisions dans quelques minutes, alors que les volleyeuses françaises sont en ce moment opposées aux brésiliennes au championnat du monde. En quart de finale, nous prendrons également de leurs nouvelles. À partir de 13h30, vêtements quand les poubelles débordent. Les organismes de tri croulent sous les produits de la fast fashion. Alors les consommateurs n'hésitent plus à s'en débarrasser avec leurs ordures. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h50, c'est la France. Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest nous parle du premier centre médico-social de France, labellisé bio, c'est en Dordogne. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Jennifer Ayash du groupe Superbus demande les Rita Mitsouko.
Catherine Ringer, je l'ai croisée dans un train une fois et je suis allée lui serrer la main alors que je ne fais jamais ça. Elle fait partie du patrimoine français, quoi.
Tout cela au micro de Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Rougeole, oreillon, polio, tous les parents connaissent ces vaccins et leurs rappels à faire dès la naissance des enfants. Pour ne parler que de la rougeole, elle faisait encore plus de 2 millions de morts dans le monde en 1980, avant la généralisation du vaccin. Mais tout cela est balayé en ce moment aux États-Unis par le puissant mouvement anti-vaccin. Si bien que l'État de Floride, 23 millions d'habitants, a annoncé hier sa volonté d'abandonner ses obligations vaccinales. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. La Floride, premier État américain à faire cette annonce et d'autres pourraient suivre.
Oui, pour le moment, aux États-Unis, tous les États exigent que leurs enfants aient un minimum de vaccins pour aller à l'école. Mais la Floride estime donc qu'il faut laisser la liberté de choisir aux parents. C'est le plus haut responsable de la santé de l'État qui s'est exprimé à ce sujet hier. Joseph Ladapo, c'est son nom, a tenu une conférence de presse dans une école chrétienne de Floride et il a fustigé, écoutez, les obligations vaccinales.
Chacune d'entre elles est erronée et dégouline de mépris et d'esclavage. Qui suis-je en tant que gouvernement ou qui que ce soit, qui suis-je ici devant vous pour vous dire ce que vous devriez mettre dans votre corps ?
Votre corps est un don de Dieu, a ajouté ce médecin qui est connu pour son opposition aux vaccins. Les critiques contre les vaccins ne cessent en fait de s'amplifier aux États-Unis et les anti-vax ont désormais un représentant au sein du gouvernement, le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr. Les vaccins anti-Covid sont moins bien distribués. La patronne de la plus grande agence de santé publique, le CDC, a été limogée la semaine dernière en raison d'un désaccord avec le ministre sur la politique vaccinale. Beaucoup d'experts de santé publique, Jérôme, prennent la parole dans les médias, les journaux pour alerter sur le danger de cette nouvelle politique. Des élus démocrates se mobilisent également, mais le mouvement anti-vax prend de l'ampleur. Donald Trump lui-même se dit sceptique sur l'utilité de certains vaccins.
Franck Madvon en direct de Washington. Alors la France n'échappe pas à cette vague de remise en cause des vaccins. Les réticences des jeunes, par exemple, à participer à la campagne contre le papillomavirus ces derniers mois le prouvent. Et cette décision de la Floride pourrait encore aggraver la situation, estime Antoine Flao, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé publique à Genève.
On le voit déjà réapparaître un certain nombre de ces maladies, mais pas à des niveaux qu'on avait connus autrefois, mais on n'a jamais eu aux États-Unis, par exemple, autant de cas de rougeole. Il y a donc des gens qui sont contre ce type de vaccin et qui, malgré l'obligation, ne se font pas vacciner. Et ça entraîne des résurgences. Alors aujourd'hui, elles sont contenues. Disons qu'aujourd'hui, il y a en Floride 95% de la population des enfants qui sont vaccinés contre la rougeole. Mais si ça passe même à 80%, c'est-à-dire même encore à une proportion élevée de gens vaccinés, mais pas à 95%, vous aurez des très grosses épidémies de rougeole sur le sol américain chez les enfants non vaccinés. Et donc, quelque part, il y a pour moi, je dirais, une forme de maltraitance des enfants, de leur faire subir ce que les opinions de leurs parents, mal informés sur l'efficacité de ces vaccins, va produire. Il y aura des cas de rougeole beaucoup plus graves que les risques que les parents suspectent et qui n'ont jamais été démontrés par la science aujourd'hui avec ces vaccins.
L'épidémiologiste Antoine Flahaut au téléphone de Victor Dolande. Lisbonne, en septembre, les voyageurs se pressent de toute l'Europe pour étirer encore leur été. Et cette ambiance légère a cédé la place au drame hier soir peu avant 20h, quand l'un de ces célèbres funiculaires, celui de la Gloria, a dévalé la forte pente. Il a fini par dérailler avant de s'encastrer dans un immeuble. L'un des câbles aurait lâché. Au moins 17 morts, 21 blessés, dont une Française. Bonjour Benjamin Illy.
Bonjour.
Vous êtes arrivé sur place, vous êtes sur les lieux de l'accident.
Oui, l'image sidère les passants, les touristes. Ce wagon, ce funiculaire de carte postale comme broyé dans la foule tenue à distance par les policiers. Il y a Emmanuel, franco-portugaise.
Je vis dans ce quartier, donc c'est évidemment un transport très utile dans une ville des sept collines. J'espère le continuer à le prendre souvent. Oui.
Vous ressentez quoi en voyant cette image du choc ?
Ce tas de tôles, ce cimetière vivant, c'est quelque chose de très fort, de criant. Enfin, pleurent tous, c'était vraiment un choc.
Choqué lui aussi, Abel, 76 ans, il était dans l'autre wagon, aujourd'hui quasi intact, car il se situait au bas de la pente quand l'accident s'est produit. Un témoin direct. Il y avait une femme pleine de sang, mais elle était vivante. Au moment où j'essayais de retirer un débris sur une autre femme, raconte Abel, elle était déjà morte. J'ai paniqué quand j'ai vu l'autre wagon descendre à toute vitesse en direction d'une autre. Il pouvait le pulvériser et même avancer sur l'avenue. Je ne reprendrai plus jamais ce funiculaire. C'est un jour de deuil national au Portugal, un deuil qui va durer 3 jours ici à Lisbonne selon la volonté du maire.
Benjamin Illy à Lisbonne pour Inter. Alors le funiculaire, c'est un moyen de transport que connaissent bien plusieurs villes de France, Pau, Paris ou encore Lyon, mais aussi Évian. Michel Bétan est chef d'exploitation du funiculaire de la ville, 200 000 voyageurs en saison. Il nous détaille les conditions de sécurité dans lesquelles circule le funiculaire de la ville.
Les conducteurs, c'est leur boulot à faire le matin. On a un registre de sécurité avec tout ce qu'il y a à faire tous les matins. Et à chaque fois, dès qu'ils ont fini, ils cochent toutes ces cases et après ils mettent leur signature. On a une trace de tout ce qui a été vérifié. Moi aussi, je repasse derrière. C'est des monuments historiques, donc c'est encore de la grosse mécanique qui est assez simple à vérifier. Donc on a tout ce qu'il y a en machinerie, hein, les pinces de frein, les poulies motrices. On a sur les wagons, on a les culots, les attaches, qu'une pédale en cas de secours, freinage d'urgence. C'est le cabinier qui est le seul à l'actionner au dernier moment. Après, nous, on est encore équipé d'un palonnier. Dès qu'il y a un léger mou de câble qui se déclenche sur le wagon, ça veut dire que ça nous fait tomber les freins sans que le cabinier touche quoi que ce soit. On y pense, on y regarde mieux. Même les cabiniers sont prévenus, là, on leur a remis encore une couche, d'être attentifs. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Des propos recueillis par Mathieu Benour. C'est un cambriolage estimé par une source policière à près de 9 millions d'euros au moins. Un vol réalisé en pleine nuit dans un musée de la ville de Limoges, connu de tous les amoureux de porcelaine. C'est le musée Adrien Duboucher. Nathalie Colle, ce sont 3 pièces de porcelaine chinoise qui ont été dérobées la nuit dernière.
Oui, il s'agit de 2 plateaux de porcelaine chinoise d'une valeur de plus de 6 millions d'euros et un vase dont l'estimation doit encore être confirmée. Des objets classés trésors nationaux dérobés peu après 3h ce matin. Le ou les voleurs ont cassé une étroite vitre sur l'une des grandes fenêtres de la façade du musée et ciblées les vitrines les plus proches. Ces pièces d'une très grande valeur n'ont probablement pas été choisies au hasard, mais seront difficiles à écouler. Leurs références ont aussitôt été diffusées très largement au niveau des services spécialisés dans ce type de banditisme et tout est fait pour qu'ils soient impossible de les revendre sur le marché de l'art classique. Mais il peut aussi s'agir d'une commande d'un collectionneur d'art sur le marché noir. C'est l'une des pistes qui sera certainement explorée par les enquêteurs.
Précision signée Nathalie Colle, ici Limousin, à Grenoble. Après l'agression lundi d'un boulanger qui avait refusé de donner du pain à 3 personnes qui lui ont demandé en pleine nuit, 2 hommes ont été arrêtés. Le jeune boulanger, blessé de 2 coups de couteau, est depuis sorti de l'hôpital. La cour d'assises de Paris, elle continue de se plonger dans la vie infernale d'Amanda Glin, cette femme étranglée par son compagnon Arnaud Bonnefoy. C'était en 2022 à Paris. Elle venait de lui annoncer son intention de le quitter. Et ce matin, l'ex-policier du Blanc-Mesnil a eu la parole. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour Inter. L'accusé ne cherche pas du tout à minimiser sa responsabilité.
Non, c'est un homme qui se dit rongé par les regrets après cet acte horrible que j'ai commis envers Amanda, mais aussi mon comportement tyrannique envers Camille, Coralie, précédente compagne de l'accusé, chemise blanche, voix atone, bras croisés devant lui. L'acte que j'ai commis est monstrueux, aucun pardon n'est envisageable, poursuit-il encore. Ceci étant dit, la cour tente de comprendre comment ce policier en est arrivé à étrangler à main nue la femme douce, lumineuse, équilibrée, décrit-il qu'il aimait tant. Alors le président énumère ses 118 jours d'arrêt maladie en un an. Votre mère est décédée, vous souffrez de l'éloignement avec votre père, vous êtes marqué par le suicide de 2 collègues, votre précédente séparation s'est mal passée au point que vous avez été hospitalisé en psychiatrie après une tentative de suicide et vous n'êtes pas suivi. J'aurais dû me prendre en charge, déplore l'accusé. J'étais dans un déni. Ajoutez une jalousie maladive, une immaturité affective et Arnaud Bonnefoy reproduit chaque fois le même schéma. Relation copier-coller, reconnaît-il à l'audience. Des débuts idylliques, intenses et puis ma paranoïa détruit complètement cette relation et me fait entrer dans des colères noires. Une colère fatale à Amanda qui, lassée, lui avait annoncé son intention de le quitter.
Charlotte Piret, en direct de la cour d'assises de Paris. Le verdict est attendu dans la nuit. Arnaud Bonnefoy encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Les réunions et assemblées générales se succèdent à l'approche du 10 septembre. Le mouvement Bloquons tout. Où agir? Comment? Question débattue hier soir à Dijon, 200 personnes rassemblées, et ce soir à Albi. Tout cela bien loin de la semaine d'adieu du Premier ministre François Bayrou qui recevait ce matin les représentants du Parti Socialiste. Alors l'entretien s'est conclu sur un constat de désaccord. Les socialistes voteront contre la confiance lundi prochain. Mais plus intéressant, bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'hôtel Matignon. Plus intéressant, les socialistes avancent sur la suite. Une entrée au gouvernement avec cette porte ouverte ce matin par le patron des députés LR, Laurent Wauquiez.
Oui, le chef de file des députés Les Républicains assure que ses troupes ne censureront ni un gouvernement PS, ni un gouvernement RN. Mais le patron du parti, Bruno Retailleau, tempère ce midi. Pas de chèque en blanc, tout dépendra du programme. La seule certitude, c'est que les LR refusent d'entrer dans un gouvernement avec les socialistes. Pour le reste, ça n'engage donc que Laurent Wauquiez, qui fixe une ligne rouge, la présence de ministres insoumis, sinon pas de censure, pour, dit-il, éviter une instabilité catastrophique. Tant mieux, a réagi ici dans la cour de Matignon, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
Maintenant, nous savons toutes et tous qu'il n'y a aucune solution majoritaire et donc nous avons le mérite de présenter une offre. Les écologistes et les communistes et les ex-insoumis ont aussi fait des propositions qui rejoignent les nôtres. Il y a donc là une base de travail sur laquelle nous pouvons entamer des discussions.
Des discussions, vous l'avez entendu, sans les insoumis. Preuve, une fois de plus, que la rupture est actée entre le PS et les LFI.
Justement, Sonia, les relations avec la France insoumise. Ce matin, le leader de gauche Raphaël Glucksmann dit dans Libération qu'il refuserait tout accord avec LFI au second tour de législative, y compris face au Rassemblement national.
Oui, interrogé sur l'hypothèse d'une dissolution, Raphaël Glucksmann appelle à assumer la confrontation et la rupture avec les insoumis. Le fondateur de Place Publique Alliée des Socialistes insiste sur des désaccords profonds et revendique du pragmatisme. Parce que pour Raphaël Glucksmann, plus il y a de deuxième tour LFI et RN, plus il y a de chances d'avoir des députés RN à l'Assemblée. C'est pour cela qu'il appelle à rompre définitivement avec la France insoumise, qu'il décrit comme un boulet au pied empêchant la gauche de franchir le plafond de verre.
Merci Sonia Gobry, avec les moyens techniques de Mickaël Simon. De l'autre côté de l'échelle, intéressons-nous cette fois à la démocratie au plus près des électeurs. Ce sont ces maires du Tarn-et-Garonne qui n'ont plus qu'une semaine pour donner leur avis sur la future ligne de train à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, en tout cas sur son impact environnemental. Et le dossier qui a été envoyé par les services de l'État aux municipalités est plutôt volumineux. Il fait 25 000 pages. Comment voulez-vous qu'on le décrypte ? S'indigne Alain Belloc, maire de Pompignan, 1800 habitants.
C'est pas bien ce qui se passe, quoi, là. C'est pas bien parce qu'on nous fait prendre des décisions, acter des choses où on n'a rien compris même, nous-mêmes. Alors voilà ce qui me gêne. Et peut-être que nos populations nous le reprocheront après. Il y a des élus qui ont demandé des résumés de dossiers par l'intelligence artificielle. Bon, mais malgré ça, même l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle n'arrive pas à me faire un résumé de ces 25 000 pages. On n'est pas des techniciens, les maires, on est simplement maires et non pas techniciennes de tout ce domaine-là. Et là, aujourd'hui, on n'arrive même pas à soustraire quelque chose de cohérent dans ce qu'on peut présenter dans nos conseils municipaux.
Alain Belloc au micro d'ici Occitanie. Est-ce une énième réunion des soutiens militaires de l'Ukraine face à la Russie ou au contraire un sommet qui va aider à garantir sa future sécurité ? L'avenir le dira, mais Volodymyr Zelensky veut y croire. Le président ukrainien est à Paris aujourd'hui pour rencontrer les membres de la coalition des volontaires, c'est-à-dire les pays censés défendre l'Ukraine une fois la paix conclue avec la Russie, et on en est bien loin. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour.
Vous êtes à l'Elysée, vous suivez ce sommet. Beaucoup d'Européens, Frédéric, mais pas uniquement.
Réunion qui vient de s'achever, Jérôme, avec autour de la table Volodymyr Zelensky, tout de noir vêtu, Emmanuel Macron, les dirigeants finlandais, polonais, danois, belges. Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a dû annuler sa venue. Il a fait demi-tour en plein vol à cause d'un problème d'avion, a priori une panne technique. Autour de la table, enfin, les représentants des institutions européennes, Ursula von der Leyen et Antonio Costa. Face à eux, un écran géant, une vingtaine de visages connectés en visio, le britannique Starmer, l'allemand Merz, l'italienne Meloni, mais aussi les premiers ministres australiens et canadiens. Tous ont validé les garanties de sécurité proposées à l'Ukraine en cas d'hypothétique cessez-le-feu, troupes au sol, aide au renseignement, à la formation, au déminage, une sorte de pot commun pour protéger Kiev. Le détail des contributions pays par pays est lui gardé secret.
Et ce qui donne du poids, Frédéric, à ce rendez-vous, c'est la présence de l'Américain Steve Witkoff. C'est l'un des plus proches conseillers de Donald Trump.
Oui, car Steve Witkoff n'est pas seulement l'émissaire diplomatique de Donald Trump, c'est aussi l'un de ses conseillers les plus sensibles au récit russe sur cette guerre, au discours de Vladimir Poutine qu'il a rencontré à de multiples reprises ces derniers mois. Selon mes informations, il est d'ailleurs en ce moment même en train de discuter en aparté avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Les Européens espèrent donc convaincre Washington de soutenir expressément, publiquement, cette initiative des garanties de sécurité. Question qui sera au centre du coup de téléphone des Européens et de Volodymyr Zelensky à Donald Trump. Appel prévu dans moins d'une heure à 14h.
Frédéric Saïs en direct de l'Elysée avec Julien Girard. C'est un groupe d'investissement américain, Régent, qui met la main sur la marque de prêt-à-porter Petit Bateau. Le groupe français Rocher annonce la vente ce matin. Elle le détenait depuis 1988. Régent, déjà propriétaire de la marque française DIM. L'encadrement des loyers, le dispositif est en vigueur dans 70 villes de France. Mais est-il respecté ? La réponse du 5e baromètre de la Fondation pour le logement des défavorisés est plutôt oui, mais 32% des annonces dépassent tout de même le plafond qui est autorisé par la loi. Bonjour Magali Homo.
Bonjour à tous.
Cela a des conséquences sur le budget des locataires.
Ils déboursent en moyenne 192 euros en trop par mois, mais c'est très inégal selon les territoires. Il y a les bons élèves, Montpellier par exemple, où seulement 12% des annonces sont hors des clous. Ça va dans le bon sens à Paris et Lille, on se situe autour des 30%. Et puis il y a les mauvais élèves, la banlieue parisienne, notamment Saint-Denis, où plus d'une annonce sur deux ne respecte pas l'encadrement. Christophe Robert, délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés.
Plusieurs raisons. Souvent, c'est un manque de communication. C'est-à-dire que les locataires ne savent pas, ne connaissent pas la loi. Donc, il faut faire de la communication. Parfois, c'est l'État qui ne suit pas vraiment cette affaire, en tout cas pas suffisamment, alors que c'est la loi. Il faut la mettre en application. Il faut que les loyers baissent.
Autre frein, c'est le délai de signalement. 8 mois avant de prononcer une amende contre les bailleurs en tort. Malgré ça, c'est un dispositif qui globalement fait ses preuves et qui pourtant doit prendre fin dans un an.
Il faut absolument qu'il y ait une nouvelle loi. D'où notre appel aux parlementaires. On est en période d'instabilité politique majeure. Il ne faudrait pas quand même que cette instabilité fasse tomber cet encadrement des loyers qui, peu à peu, se met de mieux en mieux en application dans notre pays.
Une loi pérenne avec des contrôles renforcés, des sanctions également envers les professionnels de l'immobilier et les plateformes qui diffusent des annonces non conformes.
Que fait-on, Magali, si on se rend compte que son loyer dépasse le plafond autorisé par la loi ?
Eh ben, on peut se tourner vers sa mairie, vers les associations, notamment la Fondation, pour essayer de régler ça à l'amiable avec le propriétaire. Et puis si ça ne marche pas, eh bien ça passera par la justice.
Merci Magali Homo pour ces explications. 700 personnes ce matin entre l'usine Novasco et la mairie d'Agondange en Moselle. Une marche citoyenne pour soutenir les salariés de l'Aciériste, ex-Ascométal, de nouveau menacé de faillite. L'État doit garantir le maintien des emplois. Voilà l'un des slogans entonnés ce matin par les manifestants. Là, il est manifestement trop tard. Vous vous souvenez sans doute des cachous Lajoni, produits à Toulouse depuis plus d'un siècle. Leur goût, la boîte jaune et leur image avec cette pub télé qui avait fait beaucoup de bruit dans les années 80. Eh bien, les amateurs de cachous s'interrogent depuis des mois. Ils ne trouvent plus cette confiserie en magasin. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
Il semble que la production se soit arrêtée dans l'anonymat.
Oui, et les circonstances de cette disparition ne sont pas très claires. Aucune annonce officielle d'un arrêt donc de la fabrication des cachous. Et pourtant, en magasin, il n'est plus possible d'en trouver. Depuis un moment.
Alors là, j'en ai plus depuis. Ça fait un an que j'ai plus de cachous, parce que j'arrive plus à m'en procurer.
Jean-Frédéric Bourva dirige la pharmacie Lajoni à Toulouse, officine à l'origine de la marque, née en 1880. La pharmacie ne fabrique plus les cachous depuis longtemps, n'a plus aucun lien avec la marque, mais reçoit toujours de nombreux appels.
Après, j'ai des appels de toute la France et même de l'étranger pour savoir où est-ce qu'ils peuvent s'en procurer, parce que ça m'est arrivé d'envoyer des colis à l'étranger. Moi, il m'en reste quelques boîtes, mais ils sont périmés, donc je peux pas les vendre.
Toujours à Toulouse, l'usine qui produisait jusqu'ici les cachous Lajoni ne répond plus non plus au téléphone.
Pour joindre le responsable de la ligne cachou, composez le 4.
Voilà, les cachous désormais aux abonnés absents et pour cause. La marque toulousaine a été vendue à un groupe industriel international, Perfective Van Mel. Depuis, les cachous ont été retirés de la distribution sans aucune explication officielle. Perfective Van Mel ne souhaite pas communiquer, les grossistes n'ont plus accès aux commandes et les pastilles ont tout simplement disparu du site officiel de la marque. Une pétition en ligne a donc été lancée par les fans de la marque pour demander le retour immédiat de la pastille iconique.
Merci Laurent Kramer. Avant de prendre des nouvelles des volleyeuses françaises engagées en quart de finale des championnats du monde face aux favorites brésiliennes et des françaises qui sont menées, d'autres sportives françaises qui, elles, vont être privées de compétition. Noureddine Zidane, on vous retrouve, il s'agit des boxeuses qui ne pourront pas participer aux championnats du monde car la fédération n'a pas envoyé à temps les résultats de leur test de féminité.
Et Maëlys Richel est encore sonnée par cette nouvelle. La boxeuse de 20 ans espérait participer à ses premiers mondiaux élites.
J'ai appris ça au moment des tirages, parce que les tirages étaient diffusés en direct sur le YouTube de World Boxing. Et c'est à ce moment-là, en fait, à la découverte des tableaux, qu'on a vu qu'il n'y avait aucune Française affichée dans toutes les catégories.
Elle se dit écœurée, elle aurait espéré plus de souplesse de la part de World Boxing pour cette première édition avec ses tests de genre. Le président de la Fédération française, Dominique Natto, dit pourtant avoir pris toutes les dispositions dès le mois de juillet.
On a contacté World Boxing, ils nous ont orientés vers un laboratoire à Londres. Nos athlètes féminines sont arrivées lundi et elles ont fait directement, en arrivant à Manchester, un périple de 2 heures pour aller passer leur test. Et hier soir, les résultats des tests n'étaient pas revenus. Ils n'ont pas voulu intégrer nos 5 filles.
Mais pour la championne olympique à Rio, Estelle Mosley, et candidate à la présidence de la fédération, on a fait preuve de trop de légèreté dans cette affaire.
La France aujourd'hui est un pays voisin de l'Angleterre. Elle a réussi à faire ses tests en Angleterre 3 jours avant. Pourquoi elle ne les a pas fait 1 mois, 2 mois, 3 mois avant? Surtout compte tenu du cadre légal français qui ne permettait pas de faire ces tests de genre pour des compétitions sportives.
Une situation inadmissible pour Marie Barsac, la ministre des Sports, qui doit échanger dans les prochaines heures avec le président de la Fédération et faire toute la lumière sur cet imbroglio.
Et voilà qui va relancer la polémique autour de ces tests génétiques qui sont désormais obligatoires. Merci Noureddine Zidane. Le volley donc maintenant, les volleyeuses qui ont longtemps vécu dans l'ombre des volleyeurs, double champion olympique, sont dans la lumière depuis quelques jours. Les championnats du monde en ce moment. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Jérôme.
Quart de finale historique pour les Bleus. opposée aux favorites brésiliennes. Ça n'est pas très bien parti.
7-0 pour l'instant pour les brésiliennes. On a cru un moment à l'issue de la deuxième manche que les Françaises allaient égaliser un partout. Le point était acquis, l'arbitre n'avait rien dit, mais un challenge demandé par le coach brésilien a fait basculer la tendance et les Bleus se sont donc inclinés, mais c'est très disputé dans la deuxième manche. Je vous rappelle qu'un set en volleyball, ça se dispute au meilleur des 25 points avec 2 points d'écart, 33-31 dans la deuxième manche, 27-25 dans la première, encore une fois en la faveur des brésiliennes. Double championne olympique à Londres et à Rio 2012-2016, les Françaises s'accrochent, elles sont impeccables. Imane Diaye, la révélation du tournoi, et la capitaine Elena Cazot, mais c'est très dur face à la deuxième nation mondiale. Je rappelle que les Françaises ne sont jamais allées aussi loin dans une compétition internationale. Le Brésil, c'est la deuxième nation mondiale et les Françaises sont classées 15e.
Et on les suit grâce à vous, Guillaume Batten. On va continuer de les suivre dans les prochaines minutes en espérant un renversement de situation. C'est un incontournable de l'événement du week-end. Je voudrais vous parler de la braderie de Lille, maintenant où l'on consomme chaque année évidemment le traditionnel moule frites et l'on collecte à l'issue de la braderie les déchets issus des moules frites. 5 tonnes en moyenne de coquilles de moules. Alors les années précédentes, on avait fait avec ces coquilles du carrelage, des vasques de lavabo ou encore des pots de bougies. Eh bien cette année, ce sont des bancs. 10 bancs à base de coquilles de moules viennent d'être installé juste devant l'hôtel de ville de Lille. Reportage Stéphane Barbereau.
Il est plus lourd que les traditionnels bancs en bois. Il faut donc l'installer avec une camionnette, une grue. Il a été conçu par la société Enici, basée à Roubaix, dirigée par Espérance Fenzi, qui donne la recette pour fabriquer chacune des 10 lames qui composent le banc.
Elle fait à peu près 14 kilos. Elle a un renfort métallique en son milieu. Et le reste, c'est donc à peu près 7 kilos de coquilles de moules, et puis de la bille calcaire et de la poussière de verre, et un liant pour agglomérer l'ensemble.
Avant cela, il a fallu nettoyer les coquilles de moules collectées l'an passé à la braderie.
Quand on récupère les coquilles de moules, on a un petit peu de gobelet, un petit peu de lingette rince-doigts, mais on a aussi de la chair, de la sauce maroilles, donc elle n'est pas exploitable en l'état.
Et puis rassurez-vous, il n'y a plus d'odeur. Impossible pour cette jeune Lilloise de deviner l'histoire du banc sur lequel elle est assise.
Ah oui, je ne savais pas.
Il est confortable ?
Oui, il me donne plus envie que les bancs en bois là-bas. Il est beau, il est gris, il est joli.
Et plus durable, avec une espérance de vie 2 à 5 fois plus longue, même s'il est 2 fois plus cher. Julien Pilette est adjoint au maire chargé de l'économie circulaire.
Une lame en bois, c'est à peu près 50 euros et là, on est un peu moins de 100 euros. Sauf que quand on fait le calcul du temps de travail des agents et de la durée de vie du produit, on va y gagner énormément. Et c'est autant d'arbres dans les 30-40 prochaines années qu'on ne va pas couper pour fabriquer ces bancs.
Et les bancs noirs, pour l'instant, vont s'éclaircir avec le temps pour éviter d'être trop brûlants au soleil l'été.
Les bancs sauce maroilles, je suis sûr qu'il y aurait des amateurs. Reportage ici Nord, 13h26 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, ces vêtements que l'on jette n'importe où. On les retrouve de plus en plus dans les poubelles, au milieu des cartons ou des boîtes de conserve, car la filière de tri est saturée, noyée par les vêtements de la fast fashion. J'attends vos témoignages. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton, la vie après les effondrements. Retour rue de la Rousselle à Bordeaux, 4 ans après. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marie-Luce, vous explorez le lien entre notre alimentation et le traitement des maladies mentales.
Oui, et cette semaine, donc, on va se diriger en Dordogne, plus précisément au foyer du Bercail. Ici, les résidents souffrent d'un handicap intellectuel. Depuis quelques mois, ils mangent beaucoup plus sainement et les effets positifs sont déjà visibles.
Et avec vous, Frédéric, une chanteuse.
Jennifer Ayache, chanteuse du groupe Superbus, qui entamera bientôt une série de concerts. Le groupe sera notamment le 16 octobre au Zénith de Paris. Et avec Jennifer Ayache, nous écouterons un tube des Rita Mitsouko, un titre de leur deuxième album. C'est comme ça.
D'accord, et pas autrement.
C'est comme ça.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Ce vendredi sur France Inter, enquête sur Xavier Niel dans Révélation.
18h15, Benoît Colomba.
Il est la 7e fortune de France, le tout-puissant patron de Free, incontournable dans les médias. Il a l'oreille des politiques et des géants de la tech.
Liberté, égalité, prix inchangé. Voilà mon combat pour le pouvoir d'achat des Français.
Mais qui est vraiment Xavier Niel et quelles sont ses méthodes ?
Révélation, le magazine de la cellule Investigation de Radio France.
C'est ce vendredi, après le journal de 18h.
Ça,
c'est le bruit d'une vie un peu trop animée. Deviens membre maintenant, profite de 6 semaines offertes et reçois un sac de sport. Basic Fit, go for it. Go for it est égal lancez-vous. Mood est égal humeur. Promotion valable du 25 août au 9 octobre 2025 inclus pour une nouvelle inscription à un abonnement annuel confort, premium ou ultimate. Durée de 6 plus 52 semaines.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo. Torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Attention aux orages dans l'Est.
Oui, de l'Est du Languedoc vers l'Ouest de la Provence, l'Auvergne, les Alpes, l'Alsace, on retrouve nos pluies, parfois accompagnées d'orages. Sur Rhône-Alpes, une vigilance orange est en cours pour Isère, Drôme et Ardèche. L'activité peut être intense avec des orages forts, beaucoup de pluie en peu de temps, de la grêle et de fortes rafales de vent, soyez prudents. Plus à l'Ouest, c'est un ciel variable, une alternance d'éclaircies, de nuages et d'averses, parfois accompagnées d'orages. Une ligne d'averses plus active va s'étirer cet après-midi du Limousin vers les Ardennes et l'Est des Hauts-de-France. Côté thermomètre, ça baisse, en particulier sur le sud-ouest. On perd parfois 8 à 10 degrés par rapport à hier. Comptez 18 à 23 degrés le plus souvent cet après-midi, jusqu'à 27 près de la Méditerranée et 29 en Corse. Demain, amélioration avec les derniers orages qui quitteront le pays par le flanc est le matin. De belles éclaircies reviendront l'après-midi. Ce sera estival samedi, très ensoleillé, avant une dégradation pour la journée de dimanche par l'ouest.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Des jeans et des t-shirts qui dépassent des bacs d'ordures ménagères ou des poubelles jaunes. Voilà ce qu'on voit dans plusieurs de nos villes depuis quelques mois. Ces vêtements n'ont rien à faire là et cela pose problème aux communes pour le tri. Et si on en est arrivé là, c'est en raison de la saturation des organismes de collecte qui croulent littéralement sous les produits de la fast fashion. Vite acheté, vite abîmé et vite jeté. Nous en parlons avec nos invités. Bonjour Maud Hardy.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de ReFashion. ReFashion, c'est l'organisme qui est agréé par l'État pour gérer l'argent que versent les marques et qui est compris dans le prix de vente des vêtements. Et cet argent, il sert à collecter, à trier et à recycler ces vêtements. Vous allez nous expliquer tout cela et à quel point vous assistez, j'allais dire, à l'embouteillage de toute la filière. René Revol avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de la commune de Grabel, près de Montpellier, vice-président de la métropole de Montpellier. Vous intervenez en direct des locaux d'ICI Héros à Montpellier. 01 45 24 7000 pour vos témoignages. Si vous avez cherché à jeter des vêtements récemment ou si vous avez réussi à les déposer dans une association ou un organisme de collecte ou pas, vous nous appelez. Vous pouvez également laisser vos messages via l'application Radio France. Est-ce que Florence est avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour Florence, vous nous appelez des Côtes d'Armor.
Oui, tout à fait.
Binique, exactement. Voilà, oui, c'est cela. Est-ce que vous avez constaté vous-même que davantage de gens jettent leurs vêtements ces dernières semaines, ces derniers mois, dans les poubelles ?
Alors oui, nous, en fait, on est une association, on est une ressourcerie sur les Côtes d'Armor qui s'appelle Seconde Nature. Et effectivement, depuis plusieurs mois, on voit un remplissage excessif des collectes. On se demande comment
des
les
collectes.
Gens font pour... Ben, en fait, ce que nous, on appelle les collectes. C'est-à-dire ouais. que les personnes apportent chez nous ou on va chercher chez eux le trop-plein de textiles, les textiles dont ils veulent se débarrasser. Et effectivement, c'est un apport énorme et de très, très, très mauvaise qualité. On n'est plus du tout sur de la qualité de vêtements qu'on pouvait avoir il y a une dizaine d'années.
Mais vous prenez toujours les vêtements ?
Nous, on continue de les prendre parce qu'on continue de les trier sur place au sein de la ressourcerie. Et ce que nous ne conservons pas, soit de la bonne qualité, comme ce qu'on appelle en fait dans le jargon la crème, ou ce qu'on a en trop plein pour notre petite boutique, on le redistribue à un autre partenaire qui est une structure d'insertion sur le territoire.
Donc vous ne dites jamais non à des gens qui vous amènent des vêtements jusqu'à présent ?
Jusqu'à présent, non. Ouais. Et puis, vous pourrez effectivement voir avec ReFashion, puisque nous, on est conventionné avec ReFashion comme collecteur et nous n'avons pas le droit de refuser des apports, ce qui est très compliqué pour nous, du coup.
Ah oui, comment vous faites ?
Eh ben, on explique aux personnes, on essaye de les sensibiliser au maximum quand ils apportent leurs vêtements, que d'acheter de la seconde main, c'est quand même beaucoup mieux que d'acheter du neuf.
Mais vous prenez quand même les vêtements.
Mais on continue de les prendre, mais jusqu'au moment où on ne pourra plus.
Merci pour votre témoignage, Florence, dans les Côtes d'Armor. René Revol, est-ce que vous avez constaté, comme dans d'autres villes chez vous, que à Montpellier, certains vêtements se retrouvaient dans les poubelles jaunes ou dans les poubelles d'ordures ménagères ?
Oui, tout à fait. Depuis un an, ça s'est développé. C'est vraiment la crise de cette filière textile est très sensible avec l'arrivée de cette fast fashion et puis tous ces vêtements de très mauvaise qualité. Ben, c'est le vêtement jetable, c'est le nouveau concept qu'ils ont inventé et qui inonde nos marchés et qui fait qu'une fois qu'on a utilisé ce vêtement, on le jette. Et donc nous, on a des proportions qui ont augmenté.
Bon, on cherche. Vous savez dire dans quelle proportion ? Vous savez combien de kilos de vêtements ça peut représenter par habitant et par an ?
Vous savez, en France, chaque personne achète entre 11 et 12 kilos de vêtements. Et pour chaque personne, il y a 42 articles qui sont achetés par an. Donc c'est énorme, ça augmente. Et la durée de vie de ces vêtements se réduit. C'est-à-dire que les gens les jettent plus vite vu la nature du marché. Résultat, ça augmente. Nous, on a plus de 5000 tonnes, près de 5000 tonnes par an de vêtements dans les poubelles grises qui ne sont pas faites pour ça. Donc, ça signifie que ça finit en décharge ou en incinération, ce qui est catastrophique. Et donc, il faut absolument développer un autre modèle. On cherche à le faire sur le terrain en multipliant les points de collecte avec Refashion, avec d'autres associations, et pour permettre de créer une véritable économie circulaire, qui est vraiment la seule alternative par rapport à ce tsunami qu'on reçoit en ce moment.
C'est plutôt en habitat collectif, c'est plutôt en maison. Je lisais qu'une commune le constatait plutôt dans les immeubles, car les habitants se disent « bon, ça passera peut-être plutôt inaperçu ».
C'est tout le monde.
Tout le monde.
C'est tout le monde.
Phénomène.
Ça s'est généralisé.
Phénomène général. Ça peut être. Donc les vêtements, quand ils sont dans la poubelle ordures ménagères, peuvent être incinérés. Quand ils sont dans la poubelle jaune, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces vêtements ?
Eh bien alors, on les retrie, parce que la poubelle jaune, elle est triée. Et donc, on a un taux de refus à la fin, parce qu'on ne peut pas utiliser des filières. Donc, on les réoriente vers la filière textile. Mais c'est tout un travail très, très difficile et très lourd. Il faut savoir que tout ça, c'est les gens qui le payent avec la taxe sur les ordures ménagères. Donc
vous l'avez chiffré, ça, vous l'avez chiffré, ça, René Revol ?
De quoi ?
Le coût de cela, de retrouver ses vêtements dans les poubelles alors qu'ils
n'ont... Vous savez, l'année dernière, l'ensemble de... Je suis en responsabilité que depuis un an, et cette crise, parce qu'il n'y a pas que la crise du textile, il y a plein d'autres aspects des déchets qui posent crise, nous a obligés d'augmenter la taxe sur les ménagères de 24%, ce qui n'est pas négligeable. On ne peut pas continuer, il faut trouver des solutions alternatives.
Donc c'est plus 24% pour la taxe ordures ménagères, ça s'explique en partie à cause de ce sujet.
En partie.
Ouais. Maud Hardy, vous êtes directrice générale de Refashion, donc vous avez un point de vue global sur toute la filière. Ce qui se passe là à Montpellier, ça se passe dans toutes les villes de France, dans beaucoup de villes de France ?
Oui, en fait, si on remet un petit peu d'éléments de contexte dans toute cette filière, comme vous l'avez dit, nous sommes une structure à but non lucratif, agréée par les pouvoirs publics, et notre mission, c'est justement d'organiser toute la filière de collecte, de tri et de valorisation des déchets. Et au départ, ça partait d'une très belle idée. On allait demander aux marques textiles et chaussures de subventionner les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on a entendu la ressourcerie des Côtes d'Armor, mais il y en a énormément sur le territoire national. On parle de grandes organisations comme Emmaüs, comme le Relais, comme la Croix-Rouge, qui collectent le don des citoyens. Sauf qu'aujourd'hui, on l'entend et on l'a vu cet été, le système mis en place est à bout de souffle.
Pourquoi cet été particulièrement ? Qu'est-ce qui s'est passé cet été ?
En fait, il s'est passé qu'aujourd'hui, les flux de gisements, les vêtements qui sont usagés, qui sont collectés par ces acteurs, historiquement, ils sont envoyés à l'autre bout du monde. Et ça, c'est un drame écologique et probablement économique. Et là, on ne peut plus fermer les yeux. On ne peut plus se dire que ces montagnes de vêtements qu'on voit sur les plages en Afrique, c'est satisfaisant. Moi, personnellement, ça m'empêche de dormir. Tous les matins, je me lève en me disant comment est-ce que je peux faire pour changer ce modèle. Et on ne peut pas balayer les acteurs historiques, nos acteurs de l'ESS, qui se sont mobilisés depuis 15 ans, depuis la création de la filière. Ils ont fait un travail conséquent, sauf qu'aujourd'hui, ils le disent eux-mêmes, en fait, les montagnes de vêtements sont telles qu'ils ne peuvent plus faire face.
Les Français achètent de plus en plus de vêtements, ils les jettent de plus en plus vite ? C'est ça l'explication ?
Pas uniquement. En fait, les Français sont aussi en train de développer, on l'a entendu également, comme le disait l'intervention sur les Côtes d'Armor, l'économie de la seconde main. On répare plus, on revend, on rallonge la durée de vie. Et ce qui fait que le vêtement, quand il arrive en fin de vie, quand il est enfin déposé comme un déchet, eh ben, il n'a plus la même potentialité de réutilisation qu'il y a une dizaine d'années.
D'accord,
donc le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on va faire en partant de l'existant, qui est formidable le travail qui a été fait, pour passer à une dimension supérieure. Comment est-ce qu'on peut doubler les tonnages collectés ? Comme l'a dit René Revol, aujourd'hui, les deux tiers des vêtements qui sont achetés par les Français finissent dans les ordures ménagères. Ça, c'est un drame environnemental. On doit absolument mettre en place tous les outils pour collecter plus, trier mieux et valoriser ces déchets.
Vous dites qu'il faut collecter plus. Est-ce que le sujet, c'est pas qu'il faut jeter moins ?
Il faut consommer de façon plus responsable, ça c'est certain. Il faut réparer quand on peut, il faut réutiliser quand on peut, et quand en fin de course on doit recycler, il est indispensable de mettre en place cette industrie du recyclage. Donc il faut qu'on soit dans une dynamique réellement où on passe de la bonne action maintenant au bon résultat.
Véronique nous appelle du département de la Creuse. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour.
Vous êtes où dans la Creuse, Véronique ?
Là, je suis au bord d'un lac entre Faux-la-Montagne et Perlevade.
Très bien, chanceuse que vous êtes. Nous vous écoutons, Véronique.
Moi, je me demandais, parce qu'effectivement, la plupart des vêtements que moi, je souhaite mettre au recyclage, alors le recyclage est fermé hein, dans nos contrées, la plupart des vêtements que je souhaitais mettre au recyclage, en fait, ils sont très usagés, ils ne peuvent pas être revendus. Et je me demandais pourquoi on ne fait pas une industrie de l'isolant à partir de ces vêtements. Mmh. On a besoin d'isoler de très nombreux bâtiments à cause du réchauffement climatique. Je me demandais si en hachant, en redécoupant ces vêtements, on ne pourrait pas créer des isolants peu cher, à bas coût, qui permettrait aux habitants d'isoler à moindre prix leur... leur maison.
On va poser la question à nos invités. Véronique, mais d'un mot, vous dites le recyclage c'est fermé près de chez nous. Où est-ce que vous amenez vos vêtements d'habitude ?
Alors, il y a une recyclerie qui récupère les vêtements qui sont encore en bon état. Et on avait un bac de dépôt des vêtements usagés. Ce bac de dépôt, lui, il est fermé maintenant.
Et vous en faites quoi de vos vêtements maintenant, Véronique ?
Eh ben, je suis obligée de les mettre à la poubelle.
Allez, à la poubelle.
Non, Véronique, non.
Plus d'un an. Ça fait plus d'un an que c'est fermé.
Mais qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ?
Moi, j'achète très peu de vêtements.
Véronique, restez avec nous. Maud Hardy, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, Véronique ?
C'est ça la vraie problématique. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas se satisfaire de cette situation. Donc, il y a besoin que les pouvoirs publics accompagnent cette consultation et ce travail en cours de réforme du dispositif. Parce que, comme l'a dit Véronique très justement, il y a une industrie pour faire en sorte que ce pantalon,
elle peut pas déposer ses vêtements là où elle le déposait d'habitude.
Je finis juste parce que je réponds à Véronique. Bah oui. Effectivement, son jean usagé, une fois qu'elle l'a réparé, une fois qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour pouvoir continuer à le porter, quand il est vraiment usagé jusqu'à la trame, il y a énormément de solutions pour le valoriser. On peut effectivement refaire un fil. Pour refaire un jean. On peut effectivement faire de l'isolant, elle a complètement raison. Le textile en coton est très bon isolant et on peut aussi, pourquoi pas, le transformer en combustible.
D'accord, mais à court terme, avec ces piles de vêtements ?
À court terme, il faut absolument que les citoyens les gardent chez eux. C'est pas satisfaisant, je le sais, mais Véronique, surtout ne les mettez pas dans les ordures ménagères. Comme l'a dit René Revol, ça vient gréver le budget des citoyens, donc il ne faut surtout pas le faire. Donc là, aujourd'hui, on a la chance, on a été en France pionnier quand on a lancé ce système il y a 15 ans. Il faut qu'on garde cette longueur d'avance. On est la locomotive de l'Europe, donc il faut mettre en place un dispositif qui soit efficient d'un point de vue environnemental et économique.
Véronique, vous avez entendu le message.
Moi, j'attends que la benne soit réouverte.
Ouais. Merci. Merci, Véronique.
On avait une benne de recyclage dans le village pour mettre les vêtements qui étaient vraiment trop abîmés pour être donnés à la ressourcerie. Et cette benne, elle est fermée depuis plus d'un an maintenant.
Merci, Véronique, pour votre témoignage. J'ajoute, Maud Hardy, c'est aussi une des explications, et Véronique nous le dit, il y a beaucoup de points de collecte qui ont été fermés ces derniers mois. En juillet, le Relais, qui est le principal organisme de collecte, a arrêté de collecter en expliquant que la contribution au tri que vous, ReFashion, vous leur versez, était trop faible. Ils demandaient une revalorisation. Est-ce qu'elle a eu lieu et que s'est-il passé ?
Absolument, cette revalorisation a eu lieu. Plus de 100 millions d'euros sont débloqués sur 25 et sur 26, donc ce sont des montants extrêmement conséquents. Et ça met en fait en évidence, comme on l'a vu cet été, que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont dépassés par l'ampleur du problème. Et on est obligé de faire face à ce constat ensemble. Et il est urgent de le changer. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics animent une concertation en ce moment, pour pouvoir trouver un dispositif qui soit efficient, pérenne, qui permette de garantir la traçabilité. Véronique l'a dit, je ne sais pas où ça va quand je mets mon vêtement usagé. Donc, quelle est la traçabilité absolument indispensable qu'il faut mettre en place ? Quelle est l'efficience pour pouvoir collecter plus, trier mieux et mettre en place cette industrie du recyclage dont on a besoin en France. On peut être la locomotive de l'Europe. Ça, c'est un projet, une aventure formidable. Il faut qu'on continue à innover, il faut qu'on continue à proposer des emplois dans les territoires, et le déchet d'aujourd'hui, c'est la ressource de demain. Profitons de cette chance.
René Revol, vous qui êtes vice-président de la métropole de Montpellier, vous nous avez expliqué à quel point ça vous coûtait cher, en tout cas aux contribuables, de voir tous ces vêtements jetés dans les poubelles. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez faire des contrôles? Est-ce que vous faites de la prévention, de l'explication? Est-ce que vous allez au contact des habitants?
Oui, tout à fait. On est mobilisé là-dessus. La première chose, c'est de multiplier les points de collecte. On a 20 déchetteries pour, disons, 500 000 habitants. Il y a d'autres points de collecte. Ensuite, on travaille à la création d'une véritable filière locale avec les entreprises sociales et solidaires du textile. On organise un festival de la nouvelle mode où il y a plus de 17 000 personnes qui sont venues. Donc tout ça, c'est des opérations de sensibilisation qui amènent à construire sur le plan local une véritable filière du réemploi. Mmh. Mais en plus, il faut bien tenir ce que disait Véronique est très significatif. C'est-à-dire que le réemploi, c'est réutiliser des vêtements. Pour ça, il faut faire des ateliers. Comme on a été éligible à Territoire Zéro Chômeur, eh bien, avec une entreprise à but d'emploi, de réinsertion, on a pu faire des ateliers de réparation avec les habitants, qui leur apprendre à réparer leurs vêtements, qui deviennent tout à fait corrects. Des associations locales, dans mon propre village, la Dentelière, une association récupère les vêtements, les refait. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que, justement, en fin de vie du vêtement, eh bien, on le jette. Mmh. Et là, il faut avoir amener la conscience qu'on peut réutiliser. Modardi l'a très bien expliqué. Les filochages pour en refaire un fil de base qui peut être utilisé pour construire du vêtement, qui peut être utilisé comme isolant. Il y a plusieurs expériences.
L'isolant, ça marche? C'était la question de Véronique. Ça marche en isolant?
Bien moins cher, le polystyrène.
Ça marche en isolant, voilà. René Revol.
Comment ?
Ça marche pour isoler, c'était la question de Véronique.
Oui, ça marche pour isoler, il y a des expériences. Au lieu de mettre du polystyrène qui vient, donc qui est plutôt négatif sur le plan écologique, vous avez plein de possibilités. Moi, j'ai utilisé de la paille, on peut utiliser des vêtements, et c'est très isolant.
Je voudrais qu'on garde le temps qui nous reste, René Revol, pour prendre Isabelle très rapidement. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Vous êtes à Toulouse, nous vous écoutons.
C'est ça. Je me demandais si, avant que tous ces vêtements se déversent chez nous, est-ce qu'il ne serait pas possible d'intervenir en amont, c'est-à-dire avant que ces vêtements quittent les pays qui les fabriquent, notamment la Chine, par des taxes douanières très importantes, enfin dissuasives, et que le consommateur qui achète ces produits soit aussi taxé, comme ça serait un petit peu plus dissuasif, et cet argent collecté pourrait éventuellement servir justement pour le recyclage. Moi, je sais qu'il y a aussi des tissus qui sont recycler, pour, par exemple, pour faire du chiffon industriel pour le nettoyage.
Merci Isabelle. Voilà. Il nous reste moins d'une minute pour répondre, Modardi.
Oui, merci Isabelle, c'est une excellente question. Effectivement, vous parlez de barrières douanières. Ça, c'est un sujet indispensable à adresser au niveau européen. La Commission européenne et la France ont un rôle à jouer aussi dans la conviction de ses confrères États membres. Il y a un besoin de courage politique, à la fois pour travailler sur l'amont, comment est-ce que ces vêtements arrivent en France,
c'est
et
en
surtout
cours,
pour travailler sur l'aval. Il y a plusieurs chantiers, mais là, il va falloir mobiliser 27 États membres.
Merci à tous les deux. Merci Modardi, directrice générale de ReFashion. Je salue également René Revol, maire de Grabel, près de Montpellier, vice-président de la métropole de Montpellier, qui était en direct d'ici. Héros, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Nous parcourons depuis le début de la semaine la rue de la Rousselle à Bordeaux, une rue dans laquelle deux immeubles se sont effondrés il y a 4 ans, 134 sinistrés au total. Certains ne sont toujours pas rentrés chez eux. Alors ils ont créé une association que préside Thomas Drouf. Notre reporter Laurélie Carive le retrouve sur place.
Tous les jours, en se levant le matin, on voit cette cicatrice de la rue qui nous rappelle ces dramatiques effondrements et sur lequel on travaille pour faire en sorte de réparer la rue, quoi. Je suis Thomas Drouf, j'habite en face d'Anne en Creuse, rue de la Rousselle, et je suis le président de l'association des victimes et sinistrés de la Rousselle. C'est 13 immeubles qui ont été évacués au lendemain des effondrements. La police qui est intervenue à 11h du matin, bonjour, c'est la police, vous avez 20 minutes pour prendre des affaires et vous sortez. Et bien voilà, on prend un t-shirt, un caleçon, l'ordinateur, le téléphone et on est parti. Et on est revenu un an plus tard. Il y a Il y a eu deux opérations qui ont été organisées conjointement avec la police et les pompiers, où une personne par immeuble pouvait rentrer dans l'immeuble pendant 30 minutes et donc récupérer vite le passeport et au fait le carnet de santé. Et j'ai oublié ceci. Et zut, j'ai rien pour cet hiver. Et encore, nous, on a eu la chance, on a pu revenir. Il y a quelques immeubles où eux, ils n'ont jamais pu aller récupérer les affaires. Et on avait des étudiants qui, arrivés l'hiver, n'avaient pas un manteau pour s'habiller.
On peut repasser dans votre salon ?
Avec plaisir.
Bon, on peut s'asseoir là.
Allez.
Les gens qui habitaient le numéro 19 de la rue de la Rousselle n'avaient pas envie d'être interviewés, de revenir sur tout ça. Quelles nouvelles est-ce que vous avez des gens qui occupaient les immeubles qui se sont effondrés ?
Globalement, ils vont pas bien. 4 ans après, ils sont toujours des pierres qui s'effondrent dans leur tête. Certains n'arrivent pas à revenir dans le centre-ville. Certains ne peuvent plus rentrer dans un immeuble. C'est vraiment des vies qui se sont arrêtées ce 20 juin 2021. Ils se sont vus morts, ils se sont effondrés, et certains sont tombés du 4e étage. Certains se sont retrouvés ensevelis sous ces 4 étages. Ce jour-là, on a eu une chance pas possible. Je ne suis pas croyant, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui est venu protéger ces gens. C'est absolument incroyable qu'il n'y ait eu que 3 blessés graves. Des gens sont sortis des décombres avec quelques égratignures, malgré s'être pris 4 étages sur la figure, et ils sont encore vivants.
Vous présidez l'association des habitants de la rue de la Rousselle. Tout ça, ça vous prend beaucoup de temps.
L'investissement, il est gigantesque. Lorsqu'on a lancé les associations, c'était peut-être du 50 ou 60 heures par semaine. Pour traiter des sujets énormes avec la Banque de France, avec les impôts, avec la mairie, avec le député, avec la préfecture, avec les médias. On est dans l'extraordinaire. Et tout sujet, aussi simple soit-il, devient d'une complexité infinie parce qu'on ne rentre pas dans la case. Et on s'est confronté à 1000 problèmes extrêmement simples ou extrêmement compliqués, mais à chaque fois, il a fallu taper les portes, ouvrir et trouver des solutions qui n'étaient pas prévues. Aujourd'hui, les sinistrés n'ont rien eu. Et on doit chaque mois continuer à compenser, réparer à nos propres frais.
Parce que les assurances disent qu'elles veulent attendre la fin de la procédure en justice.
C'est facile de se réfugier derrière la justice. Mais ce n'est pas nous, en tant que victimes, qui nous sommes responsables de rien, à devoir faire la trésorerie de la responsabilité d'une personne. C'est inadmissible. Le temps de la justice n'est pas celui des victimes.
Les vies effondrées de la rue de la Rousselle, suite et fin demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le jeudi à 13h50, la France à table avec Marie-Luce Ribaud, là aussi à Bordeaux pour le journal Sud-Ouest. Marie-Luce, quand le bio débarque dans un centre médico-social ?
Cela va soudain beaucoup mieux. Nous voici en Dordogne, Jérôme, plus précisément au Bercail, un foyer qui accueille 70 résidents atteints de trisomie, d'autisme, de troubles importants du comportement. C'est le premier de France à proposer des repas 100% bio, locaux et faits maison. Cet été, le Bercail a reçu 3 carottes, la récompense suprême dans la restauration collective, comme le sont les 3 macarons dans la gastronomie. C'est beaucoup plus qu'une consécration, c'est un coup de projecteur porté sur une initiative exemplaire réalisée dans un univers où l'enjeu alimentaire est visiblement méprisé. Des foyers sociaux et médico-sociaux comme le Bercail, il y en a partout en France. Au total, ils servent annuellement 862 millions de repas et ils peinent à intégrer 5% de produits bio dans leurs assiettes. Or, vous le savez, la loi Egalim en impose 20% dans la restauration collective depuis 2022. Autant dire qu'il y a du pain sur la planche.
Alors, nous sommes avec le Bercail sur la commune de Sainte-Foy de Belvès. Comment ce centre a-t-il relevé le défi ?
Grâce à un homme, Frédéric Godillat, directeur du centre, et au collectif Les Pieds dans le Plat, qui accompagne la transition alimentaire de nombreuses cantines en France. Nous avons à la fois modifié l'alimentation et le mode de restauration, explique Frédéric. Les résidents mangent très sain, des produits frais cuisinés le jour même. On a banni la nourriture transformée qui arrivait en carton, mais ils disposent aussi d'un self-service, ce qui favorise la communication. Cela, Jérôme, a été réalisé en 8 petits mois et certains effets se font déjà sentir. Sauf exception, les infirmières ont interrompu les régimes des résidents et la plupart ont perdu du poids. Ils manifestent aussi leur plaisir
Avant, je n'aimais pas les sachets de soupe, mais maintenant qu'elle est fraîche, c'est bon, témoigne Sandra Tacné.
Est-ce qu'on sait, c'est un sujet sensible, si l'amélioration de la nourriture peut avoir un effet sur leur handicap ?
Alors pour Guillaume Font, le seul psychiatre nutritionnel en France, mais la discipline est toute récente, la réponse est potentiellement oui, même s'il faut rester prudent en l'absence effectivement d'une évaluation dédiée. Cette bonne alimentation, nous dit-il, augmente la densité nutritionnelle, réduit le recours aux produits ultra-transformés et peut améliorer le poids, la digestion, la glycémie et le sommeil, autant de facteurs liés à la santé mentale. Auteur du récent « Bien nourrir son cerveau », Guillaume Font est formel. Des essais montrent sans ambiguïté qu'une alimentation saine, grosso modo calquée sur le régime méditerranéen, réduit les symptômes dépressifs. On pense, Jérôme, à tous ces Français avides d'anxiolytiques pour résorber leur bleu à l'âme. On pense aux 15-29 ans. Un quart d'entre eux se déclare en dépression, selon une étude de l'Institut Montaigne parue mardi. On pense à eux et au fait qu'ils sont peu nombreux à savoir qu'une partie de la solution est dans leur assiette.
On pense à eux et on leur propose une petite recette, Marie-Luce.
Oui, une polenta aux légumes imaginée par Wilfried Malinowski, qui est l'heureux chef cuisinier du Bercail. Pour 5 personnes, taillez en petits dés 50 g de carottes, autant d'oignons, de poivrons colorés. Faites-les revenir dans de l'huile d'olive, du thym, du romarin. Mouillez avec un peu d'eau, ajoutez 125 g de polenta de maïs bio, ainsi que 325 cl d'eau, poivrez, salez, portez à ébullition et laissez épaissir. Quand elle est prête, étalez la polenta et découpez en bandes sur lesquelles vous posez une tranche fine d'un fromage de pâte dure. Faites croûter au four avec un filet d'huile d'olive pendant 10 minutes à 170 degrés et puis dégustez sans vous casser la tête.
Et sans casser le portefeuille non plus. Merci pour cette recette. Marie-Luce Ribaud en direct de Bordeaux. De C'est la France. Ah, c'est une chanson à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier, la chanteuse Jennifer Ayache.
La chanteuse de Superbus, dont vient de paraître OK KO, le 7e album, un album que le groupe jouera bientôt en tournée avec un passage au Zénith de Paris le 16 octobre. Et c'est une chanson des Rita Mitsouko que Jennifer Ayache a chouette et que l'on écoute. Un tube, c'est comme ça.
Je vois le clip à la télé, mais je dois avoir 5-6 ans. Et vraiment, j'ai un souvenir, j'avais eu peur en fait, en voyant le clip de C'est comme ça.
Vous aviez eu peur de quoi ?
Je sais pas, je trouvais que c'était dérangeant ce clip. Enfin, dans mon souvenir de toute petite fille, ça m'avait, oui, intriguée, mais de manière dérangeante, quoi. Et en même temps, je l'ai trouvé fou, décalé, cool. Donc je pense que ça a été une espèce de déclencheur, ce groupe, voilà.
C'est-à-dire qu'il a déclenché une envie de faire de la musique ?
Je sais pas, en tout cas une envie de me déguiser, de les imiter, de maquiller, enfin qu'on fait quand on est une petite fille et qu'on essaye de jouer, quoi. Voilà.
Catherine Ringer, Fred Chichin, vous aviez une affection particulière pour l'un ou l'autre ou c'était vraiment les deux ensemble ?
Les deux ensemble, je les trouvais vraiment géniaux. Après, c'est sûr que Catherine Ringer, bah voilà, c'est la voix et puis cette voix basse, grave, c'est la dinguerie. Et puis, c'était des personnages, quoi. C'était comme des personnages de Disney, quoi. Enfin, c'était comme des dessins animés, en fait. C'était punk, quoi. Et je crois que c'était ce truc punk qui m'avait fasciné, quoi.
C'est en 1986, Frédéric, qu'est sorti ce morceau. Fred Chichin, Catherine Ringer.
Catherine Ringer, que Jennifer Ayache a longtemps considéré comme un modèle.
Oui, ça a été un modèle. Ça a été, en tout cas, une façon de faire de la musique et d'être libre comme ça. Voilà, elle ne s'embêtait pas à savoir si ça plaisait, si ça ne plaisait pas, s'il fallait bien se tenir ou pas. Et je trouvais ce truc tellement cool, pour une femme en tout cas. Je trouvais ça génial, quoi. Donc oui, ça m'a inspiré. Les débuts de Superbus, j'avais cette espèce d'insolence inspirée d'elle, quoi. Enfin, je voulais m'inspirer d'elle, ouais. Catherine Ringer, je l'ai croisée dans un train une fois. Et je suis allée lui serrer la main, alors que je ne fais jamais ça, parce que vraiment, je suis très timide. Mais là, je me suis dit, je ne peux pas quand même passer à côté de ça. Donc, je suis allée la voir dans le train. Je lui ai dit, je vous adore. Enfin, de toute façon, voilà, on la connaît, Catherine Ringer. Elle fait partie du patrimoine français, quoi.
Et vous arrivez encore de l'écouter, cette chanson-là ?
Bah, de toute façon, on l'entend de temps en temps en radio et on tombe dessus sur des playlists. Et oui, ça m'arrive de l'écouter. J'ai regardé le clip tout à l'heure pour voir si ça me refaisait la même chose. Et c'est réalisé par Mondino. Ça, je ne le savais pas, évidemment, quand j'étais petite. Puis c'était tellement avant-gardiste. C'est des clips qu'on peut voir maintenant, quoi. Ouais, c'était très moderne. On danse, on saute, on crie.
C'est une chanson de soirée.
Ouais, 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 complètement. C'est des chansons de soirée.
Vous en comprenez quoi de cette chanson ?
Alors je sais pas, je me demande si c'est pas quelque chose complètement décalé, juste avec des mots qui sonnent bien. Je trouve que ça sonne très bien pour du français, justement, il y a beaucoup d'onomatopées, de mots avec des que, des che, des trucs qui sont assez impactants dans la bouche. Mais c'est vrai que le sens, je l'ai pas encore. C'est comme ça, voilà.
C'est drôle que vous utilisiez cette expression-là.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. En plus, bizarrement, oui, oui, je le dis très souvent. Genre, c'est la vie, quoi, c'est comme ça.
C'est une façon de dire on n'y peut rien et ça va aller ?
Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ou on verra bien.
Ça se dit avec le sourire, c'est comme ça ?
Moi, j'essaie de le dire avec le sourire, ouais. Bon, je suis plutôt optimiste, donc oui, je le dis avec le sourire. Voilà, c'est comme ça.
La 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 la.
La 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 la, évidemment, il faut rajouter ça derrière. C'est comme ça.
C'est comme ça, les Rita Mitsouko. On en prendrait bien encore une petite dose, Frédéric. C'était donc le choix de Jennifer Ayash.
La chanteuse du groupe Superbus, nouvel album OK KO et une tournée grosse tournée qui commence à la fin du mois.
Merci Frédéric et à demain. Le fil de l'histoire, Stéphanie Dioncane à suivre.